Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'émission, vous avez la parole pour commenter l'actualité et c'est sur Africa Radio, bien sûr. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez le sujet que vous souhaitez commenter, c'est vous qui faites le sommaire. Nous reviendrons sur les élections présidentielles et législatives au Ghana. La commission électorale a annoncé Nana Akufo-Addo vainqueur dès le premier tour. Vous êtes aussi nombreux à vouloir parler de la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. C'était hier. Nous irons également en Côte d'Ivoire. Nous reviendrons aussi sur la question du racisme dans le football. Bref, pour participer, commenter l'actualité de votre choix, venir également nous parler d'une actualité que nous n'avons pas évoquée à l'antenne, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Mais d'abord, comme chaque jour, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Allô, bonjour, madame Stéphanie Hartmann, la voix d'or, la voix d'Angers, la voix qui nous console quand on a des soucis. Aujourd'hui, tu vois, vous allez nous consoler pour le problème qui s'est passé hier, avant-hier, Paris Saint-Germain, match interrompu à cause des racismes, insultes et racismes. Je suis d'accord. Que les joueurs soient quittés le terrain pour que ça ne se répète plus. Pourquoi le racisme, blanc ou noir, on est tous le même sang rouge, la couleur ne sépare pas. Regardez l'exemple de Kim Kardashian aux États-Unis, il s'est marié avec Kanye West. C'est pas beau ça? Arrête le racisme, c'est pas bon. On a la même respiration, on a le même sort, la naissance et la mort. Pourquoi la couleur de la peau va nous séparer? Pourquoi la religion va nous séparer? Arrêtons ça. C'est dit que nous poutons James Bond. Mère chroniqueur de Paris. Bisous, bisous à toutes les belles femmes de Paris.
Bonjour les auditeurs d'Africa Radio. Bonjour Madame Hartmann. En fait, moi, je voulais parler de la racisme au foot. Normalement, le match de foot Paris Saint-Germain, Bessé-Sarit, il ne devait même pas lui jouer. Normalement, ce match devait être annulé. Je ne vais pas aller le jouer ce match. Voilà, merci. C'est ce que je voulais dire. Bonne journée, au revoir.
Bonjour Stéphanie. Bonjour de Téléfica Radio. Bonjour l'Afrique. Hier, en RDC, l'Assemblée, en fait, les députés ont destitué la présidente Jeanine Mabunda. C'est très dommage déjà parce que pour une première fois qu'ils ont eu une femme à la tête d'une grande chambre d'institutions dans leur pays, mais bon, ça a tourné très mal. Et moi, je dis que c'est même pas cette destitution, on sait comment ça s'est fait. Il y a eu de l'argent du trésor public que Félix Tshisekedi a pris à donner à ces députés-là du SCC, qui ne sont pas du PPRD, bien évidemment, l'ex-parti au pouvoir, de jouer le jeu. C'est l'argent, en fait, qui a travaillé.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, vendredi, c'est la libre antenne. Dans un instant, justement, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Mais tout de suite, nous ouvrons cette libre antenne avec le Ghana. L'ancien chef de l'État, John Dramani Mahama, a refusé hier de reconnaître sa défaite face au président sortant, Nana Akufo-Addo. Il a été réélu pour un second mandat à la tête du Ghana, selon les résultats de la commission. Nana Akufo-Addo gagne du premier tour avec un peu moins de 52% des suffrages. Nous en parlons tout de suite. Alors, voilà. Avec Dominique. Dominique, bonjour.
Bonjour, Madame Stéphanie.
Bonjour, Dominique. Si je me souviens bien, vous êtes à Tamale, dans le nord du Ghana.
Oui, parfaitement.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, John Dramani Mahama refuse de reconnaître sa défaite. Comment s'est déroulé le vote, selon vous?
Bon, selon moi, le vote s'est bien passé. C'était les élections étaient libres et transparentes, sauf qu'il y avait quelques points noirs, surtout au niveau des CENI Ouest, Kikimaï Saf, Ododio Odio et Asavulgu.
D'accord.
Donc, c'est dans ces points-là qu'il y avait quelques mésententes où il y a au niveau du comptage, surtout pour les députés, qu'il y avait des... Certains n'étaient pas contents parce qu'ils perdaient.
Ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Il n'y a pas encore de résultats officiels hein, concernant les législatives, hein, mais selon les résultats provisoires, ce serait plutôt très très serré. Ce n'est pas souvent, Dominique, hein, qu'un candidat gagne, soit réélu dès le premier tour au Ghana, non ?
Pardon ?
Souvent, il y a deux tours plutôt dans l'élection.
Le présidentiel, si le candidat a 50 plus,
bien sûr, oui,
tu gagnes. Mais pour les députés, c'est la majorité.
Il n'y a pas de deux tours, c'est très clair.
Il n'y a pas de détour.
Non, mais Dominique, je vous interrogeais sur le fait que Nana Akufo-Addo ait gagné dès le premier tour. Est-ce que ça vous surprend ?
Non, je ne suis pas surpris.
C'est très clair.
Je ne suis pas surpris parce que, voyant le programme, son programme de développement, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup de choses, surtout au niveau du lycée. Le lycée, les élèves, les parents ne paient plus la caution des enfants, des étudiants. Donc, ce problème, ce développement a permis qu'il soit voté. Et aussi, le COVID-19. Depuis que le COVID-19 est déclenché, les Ghanéens ne paient plus l'électricité, les factures d'électricité et de l'eau.
Donc si je comprends bien, Dominique, et je vous remercie hein, de nous avoir appelé hein, pour nous parler un peu du Ghana, un pays dont on ne parle pas souvent. Si je comprends bien, Dominique, hein, pour vous, hein, le bilan hein, de Nana Akufo-Addo a plaidé hein, en sa faveur, hein, notamment sur le plan de l'éducation et de la gestion de la crise sanitaire. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir appelé. Je vous souhaite une excellente journée à Tamale, où il est 12h et presque 37 minutes. Tout de suite, nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors attendez, puisqu'on va parler de la RDC dans quelques instants, mais comme c'est la libre antenne et que vous appelez entre deux, on va peut-être écouter Barthélémy qui, lui, voulait évoquer le vaccin Covid. Barthélémy, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur Barthélémy. Alors, que vouliez-vous dire sur le vaccin ? On a vu hein, plusieurs. Le Royaume-Uni a commencé une campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer BioNTech, si je ne me trompe pas. Le laboratoire Sanofi français, lui, a déclaré hier ou ce matin que son vaccin, lui, ne serait pas prêt avant 2021. Qu'est-ce que cela vous inspire, Barthélémy ?
Alors moi, ça m'inspire simplement toute une grosse cacophonie, parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire de tous les vaccins qu'on a eu, déjà rien que dans la manière de la conception du vaccin, c'est-à-dire la manière classique qui consiste à utiliser simplement le virus de façon à l'utiliser, donc le virus qui est atténué, et puis pour pouvoir faire le vaccin comme il faut. Là, aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs manières. Je veux bien accepter que la science, justement, évolue, mais on veut avoir, justement, des statistiques. C'est-à-dire que...
Ah, je sentais que votre ligne n'était pas très bonne, Barthélémy. On ne vous entend plus. Vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Ça y est. Alors, vous vouliez plutôt des statistiques, c'est ça ?
Oui, des statistiques, des études pour pouvoir rassurer les populations du monde entier pour pouvoir accepter les vaccins. Quand on voit, par exemple, les Chinois qui sont en train d'utiliser leur propre vaccin, aujourd'hui, on a les Américains qui nous apportent un autre vaccin. Peut-être demain, les Africains qui vont sortir un vaccin anti-Covid. on ne comprend pas où se trouvent les scientifiques, vraiment, où se trouve cette solidarité scientifique mondiale.
Je crois que c'était le sujet. Je vous invite d'ailleurs, Barthélémy, à aller sur le site d'Africa Radio, rubrique Les rendez-vous santé. Je pense que c'était le sujet des derniers rendez-vous santé jeudi matin avec Aïssa Thiam et Nadir Djennad. Ils ont beaucoup parlé justement de ces questions autour des vaccins. Et il y a quand même une étude qui est parue dans une revue médicale, Lancet. Donc voilà, les laboratoires commencent à publier leurs chiffres. Mais on a bien compris vos inquiétudes. Barthélémy, merci beaucoup. On parle tout de suite de la République démocratique du Congo. Alors c'est dommage, je voulais avoir Ahmed du côté de Goma, mais apparemment ça ne répond pas. Tant pis, on va écouter Charles, ce qui est déjà bien. Charles, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Charles, vous êtes à Ouaga comme chaque jour. En RDC, la présidente Jeanine Mabunda a été destituée à la faveur d'une pétition par les députés. 280 députés ont voté pour sa destitution, 200 contre. De fait, ce vote exprime une nouvelle majorité en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un coup de maître de la part du président Tshisekedi ?
Oui, moi j'encourage et je félicite les députés qui ont eu le courage de voter pour défier Joseph Kabila. Je les encourage. Qui continue sur ce chemin pour libérer le peuple congolais. Maintenant, la question que moi je me pose, fini la tension au sommet de l'État pour que la population puisse évacuer tranquillement à leurs préoccupations. Depuis que le président Tshisekedi a pris son pouvoir, ce n'est que des tensions. Il a même oublié même son programme qu'il a fait élire. Chaque fois, c'est des problèmes. Est-ce qu'avec ça, on peut diriger un pays? On ne peut pas diriger un pays comme avec les caprices des gens. On ne peut pas suivre même Joseph Kabila, il a fait son temps, il n'y a pas eu les tensions. C'est lui le maître. Mais il empêche à travailler là. Ça veut dire quoi? Mais l'Union africaine doit intervenir et même la CEMAC.
L'Union africaine a exprimé ses inquiétudes. Je crois que même l'ONU avait exprimé ses inquiétudes en disant que la RDC ne peut pas se permettre une nouvelle crise institutionnelle.
Oui, mais il faut que certains prennent les responsabilités. Avant que l'ONU intervienne là, il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités pour diminuer la souffrance des Congolais. Depuis les années 2000, ce n'est que des crises. On oublie même que le pays est fait pour diriger, non pour des caprices.
Et pensez-vous pas, Charles, que finalement, cette nouvelle majorité qui n'est pas tout à fait encore faite, on verra bien quel bureau sera installé, ne pensez-vous pas que cela peut débloquer, justement, permettre de lever les points d'achoppement et la crise?
Oui, ça peut, mais comment? C'est ça, c'est le comment là. Ils ont osé, mais et après, c'est l'après. Actuellement, ils ont osé, mais et après? Maintenant, le vrai problème, que la communauté internationale intervienne. Faut pas qu'ils vont laisser. Moi, j'ai peur.
Elle est déjà présente, Charles, cette communauté internationale, à travers la MONUSCO, la mission des Nations Unies. D'ailleurs, dont le retrait est éventuel est en discussion à l'ONU. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir appelé pour nous parler de la RDC. Bonne journée à Ouagadougou. On n'aura pas Ahmed, c'est pas grave. Je demande à Emmanuel, qui veut nous parler de l'Angola, de patienter un peu. On va revenir sur le foot d'abord. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Ibrahim, bienvenue, vous n'aviez pas pu intervenir hier. Vous vouliez revenir sur l'aspect raciste des propos de l'arbitre roumain envers Achille Pierre Webo du staff stambouliote.
Oui. Bon, moi je suis désolé de revenir sur ces sujets-là, mais ce n'est pas le sujet lui-même qui m'a interpellé, c'est plutôt les auditeurs et
certains disaient que c'est pas raciste, nous chez nous en Afrique, quand on appelle le blanc
On appelle le blanc et ça n'est pas une connotation raciste. En gros, ils ont comparé quoi, que appeler un blanc, il n'y a pas de problème, pourquoi ici aussi ça aurait pu avoir un problème. Je veux juste éclaircir la lanterne de nos auditeurs pour expliquer qu'en fait, c'est un phénomène qu'on ne peut pas décrire. Ça se vit. Par exemple, en Afrique, tout le monde sait, quand on appelle un blanc le blanc, c'est juste une façon de le désigner, et parfois même c'est avec envie et puis élévation.
Il n'y a pas de rapport de domination, c'est ce que vous dites.
Rapport de domination, la colonisation, l'aliénation, l'esclavage, tout ça nous avons subi. Donc, même moi je suis quand même, quand j'arrive chez moi au village, j'ai des oncles et puis des neveux qui m'appellent le blanc. Le blanc est arrivé, Nasarawa, mais là, est-ce que le blanc là est arrivé? Mais en gros, bien sûr, c'est par amusement. Ce n'est pas une façon de me désigner comme étant blanc parmi eux. Mais c'est mon statut social, mon état d'embourgeoisement, mon état de rapprochement à l'Occident. C'est ça. Donc, ça n'a rien de péjoratif. Mais ici, c'est le contraire. Vous savez qu'ici, les gens, ils hésitent à même appeler quelqu'un. Ils préfèrent utiliser black. Pourquoi? Ça a tout son sens. Donc, en gros, c'est quelque chose que je peux qualifier de condescendance. Appeler quelqu'un comme ça, là, le noir, là, mais pourquoi lui ne pouvait quand même pas faire un effort de tout faire pour désigner cet entraîneur? Et si c'était un joueur blanc, il allait peut-être utiliser les numéros, le nom, et comme quelqu'un disait, le contexte même ne s'y est pas, parce que le contexte de Ligue des Champions, ça exige la rigueur, ça exige le respect, donc il devrait quand même se prémunir de tout ça. En gros, c'est pour juste expliquer aux gens que il ne faut pas voir les choses comme ça de près. Nous, on vit ici, je comprends l'attitude, la colère de Demba Ba, parce que je vis ça ici. Moi, quand je venais ici, j'étais aussi comme les gens qui sont en Afrique.
On comprend, mais Ibrahim, on a bien compris, on comprend. Et l'intérêt aussi, hein, en tout cas, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette émission aussi, c'est d'avoir voilà, les points de vue de deux côtés de la Méditerranée, depuis l'Europe et depuis l'Afrique. C'est aussi intéressant de voir hein, ces points de vue se croiser et comment finalement la perception hein, d'un fait est différente, hein, selon qu'on soit ici ou là-bas. Merci beaucoup, Ibrahim. Vous êtes encore. Je vous souhaite une bonne journée. Ibrahim, Mamadou et Aboubakari veulent également revenir sur ce sujet. Je voulais juste vous lire ce message de Kyle. Je trouvais intéressant qu'il a envoyé sur WhatsApp hier. Il disait il faudrait que ce geste soit réitéré quand il y aura du public. Il parlait du fait que les joueurs s'en aillent. Je ne suis pas sûr qu'avec du public, ce genre de prise de position des joueurs aille jusqu'au bout. À voir qu'ils me fassent mentir, nous dit Kyle. Je demande à Aboubakari de patienter encore un peu. Mamadou, bonjour. Ah, bah bon, dommage. Aboubakari, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour cher ami de GDA.
Bonjour Aboubakari. Vous dites qu'il faut encourager ce genre de gestes. Vous avez entendu le message de Kai qui dit c'est pas sûr que ça aille. Ça aurait été pareil s'il y avait eu du public.
Bon, on va toujours rester dans les petites critiques, dans les petits trucs. Bon, du coup, moi, je vais aller au essentiel. Hein. Disons, déjà, avant de rentrer, j'aimerais dire comme ça à tout le monde que l'émission doit être une émission pour se écouter quand il y a un débat et pour se cultiver, au fait. Donc, je reviens sur les propos d'Ibrahim qui vient de passer là. Il y a beaucoup de points positifs dedans. Donc, notamment ceux qui ont critiqué, qui sont de l'autre côté de Méditerranée, qui écoutent et ils écoutent encore ce soir encore, et ils vont comprendre qu'il y a beaucoup de points positifs dedans. Donc, j'aimerais revenir aux gestes des équipes. Ça va faire bouger les choses, comme je le disais hier. Ça va faire bouger la ligne, ça commence à faire bouger déjà. Mais je suis sûr et certain que c'est quelque chose déjà qu'ils ont commencé. Au fait, c'est un pas, c'est un grand pas en avant et ça va suivre. Aujourd'hui, je vois Antoine Griezmann qui veut se démarquer déjà de Huawei, qui ne veut plus faire la pub de Huawei, parce que si forte succion comme quoi que Huawei ils sont impliqués dans les histoires des Ouïghours et de l'autre côté. Donc du coup, vous voyez, ça va faire bouger. Même les sponsors, les gros sponsors, les grosses boîtes qui sponsorisent les clubs, et UEFA, la Ligue des Champions et tout ça là, ils vont se mettre, parce que c'est un truc à commencer, ça doit suivre. Donc, encourageons cela, n'allons pas sur des petites polémiques, non, ça s'est dit, non, mais il faut prendre le truc dans, avec tout ce sens, au fait. Et c'est qu'on doit interpeller un être humain par sa couleur de peau.
C'est
tout, le point est là, c'est oui ou c'est non.
Merci beaucoup, Aboubakari. Voilà. Merci beaucoup hein, pour vous, hein, ce geste, j'ai bien compris, hein, va faire bouger les choses. On écoute rapidement Mamadou, ensuite on parlera de l'Angola avec Emmanuel. Mamadou, bonjour. Ah, je sais pourquoi Mamadou, parce que vous êtes en voiture et que vous avez un kit main libre et que ça coupe. Voilà. Alors, je pense même que si vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas écouter la radio tout en faisant le kit main libre, ça doit couper. Voilà, comme ça, c'est dit. Emmanuel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez parler en Angola d'une manifestation pour le droit de vote de la diaspora.
Oui, oui, tout à fait, oui. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Africa. Alors, moi j'appelle pour parler d'une manifestation qui aura lieu demain, samedi 12 décembre, devant l'ambassade de l'Angola à partir de 13h. Ça sera de 13h à 16h. Donc nous serons là-bas pour revendiquer plusieurs choses. Il y a tellement de choses à revendiquer, mais je vais citer juste quelques revendications. Alors le 11 novembre, il y a eu une manifestation en Angola et la police a tué un jeune.
Des jeunes, depuis plusieurs semaines, de nombreux jeunes angolais se sont mobilisés. Le président les a même rencontrés après, je crois.
Ouais, il a rencontré ceux qu'il voulait, quoi. Les gens, ceux qui manifestent et ceux qu'il a rencontrés ne sont pas les mêmes personnes. Voilà. Ceux qui manifestent, ce sont dans des quartiers aux alentours, dans des banlieues, comme on dit ici, dans des quartiers où il n'y a pas de conditions de vie. Mais ceux qu'il a rencontrés, ce sont des gens qu'ils ont bien choisis, hein, ils ont bien trié, les gens qui ont des bonnes conditions, etc. Ce n'est pas vraiment les mêmes personnes. Donc
les revendications de la manifestation de demain.
Voilà, donc la manifestation sera demain, de 13h30 à 16h, devant l'ambassade d'Angola à Paris, avenue Foch, au 19, avenue Foch. Le RER, c'est le RER A, descendre à Charles de Gaulle Étoile. Alors, nous allons revendiquer pour contester le fait que la police tue des gens qui manifestent pour réclamer leurs droits. Nous allons réclamer aussi les droits de vote des Angolais dans la diaspora. Parce qu'on est Angolais, mais ils ne veulent pas nous laisser voter. On ne sait pas pourquoi. Bon, on connaît la raison. Hein. C'est parce qu'ils ont peur de notre vote. Ils savent que la plupart des Angolais à l'extérieur sont contre le pouvoir en place. C'est pour ça qu'ils... Ils ne nous laissent pas voter, mais maintenant, nous voulons voter parce que nous sommes citoyens comme tous les autres. On ne peut pas continuer à trouver des excuses pour ne pas nous laisser voter. À part ça, on va revendiquer aussi le coût de la vie qui est trop élevé, quoi. Très cher. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Entre-temps, au lieu de soutenir ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien du tout, ils augmentent, ils donnent de...
C'est une manifestation organisée par quelle structure, Emmanuel ? Des partis politiques, des associations ?
Pas du tout, c'est organisé par les Angolais qui habitent ici en France.
D'accord, vous n'êtes pas réunis en association,
Oui, il y a une association qui est là, qui s'appelle Movimento para un Angola Melhor, c'est-à-dire, ça veut dire Mouvement pour un Angola Meilleur, c'est une association dont je suis le président aussi, mais il y a aussi des citoyens qui ne sont pas de cette association-là, qui sont avec nous dans l'organisation, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'association qui organise, mais ce sont les Angolais qui habitent ici et qui en ont marre de la situation dans notre pays. Parce que le régime en place, c'est le même parti qui est là depuis l'indépendance en 1975. Ils ont tellement pillé le pays, ils se sont achetés beaucoup de biens ici à l'extérieur. Ils mènent une vie de prince.
Merci.
Pendant ce temps-là, la population est dans la misère absolue.
On a bien compris, Emmanuel. Hein, donc la manifestation, c'est demain à partir de 13h30, avenue Foch, devant l'ambassade d'Angola. Et c'est à Paris, bien sûr, en France. Merci, Emmanuel. Eric, bonjour.
Bonjour.
Eric, je ne suis pas très sympa parce que vous avez à peine 30 secondes, mais vous aviez un coup de gueule contre des péages automatiques au Cameroun. On vous écoute.
Oui, madame. Vraiment, je voulais interpeller le gouvernement camerounais de nous donner les raisons pour lesquelles ils ont choisi de mettre 5 péages autoroutiers automatiques sur un territoire qui ne représente même pas un centième du territoire. Et j'interpelle aussi les chefs traditionnels qui sont des élus locaux de pouvoir voir cette situation et nous donner les critères sur lesquels ils sont basés pour accepter qu'on fasse des péages autoroutiers sur un tout petit territoire du Cameroun.
Merci.
Ça ressemble un peu à un harcèlement stratégique. Moi, je ne comprends pas trop.
Un harcèlement stratégique. Le message est passé, votre indignation est passée, mon cher Eric. Hein. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. En attendant, prenez soin de vous.